un, comment marche Mediapart aujourd'hui? On se pose toujours la question du modèle économique. Où est-ce que vous en êtes de votre équilibre économique? Deux, est-ce que Mediapart, maintenant après 4 ans d'existence, est-ce que 6 ans d'existence, 2008-2014, 6 ans d'existence, est-ce que Edutenel n'a pas enfin ce vers quoi il essayait d'aller depuis toujours, un média qui lui ressemble, qui est assis à son image et qui contrôle complètement, sans que ça puisse faire l'objet d'une quelconque contestation en interne et sur la face, ça affleure des fois dans ce qui est écrit. Et la troisième question, est-ce que ce média pourrait vous survivre? Parce que c'est la question qu'on peut se poser aussi. Donc, l'équilibre économique, est-ce que vous avez accompli votre mission pour reformuler les choses de manière très courte? Est-ce que ce média vous survivra?
Comme les précédentes, c'est une bonne question. Et mon défaut, parce que j'ai toujours envie de convaincre, c'est de vouloir faire les réponses les plus complètes possibles. Et pour ça que j'aime pas trop la politique des petites phrases et des formats courts et tout. Voilà. Non. Mediapart, très concrètement, nous avons passé hier le cap des 90 000 abonnés actifs individuels payants. Derrière un abonné, il y en a 2-3, hein, puisqu'on peut voir plus. On ne fait pas la chasse à l'usage multiple des identifiants. Chaque abonné peut offrir des articles à des amis. Donc, la fréquentation de Mediapart se compte en plusieurs millions de visiteurs uniques. Hein, donc, c'est pas selon les périodes, c'est entre 2,5 millions et 4 millions, hein, selon les mois. Et donc, nous avons ce socle d'abonnés, nous avons passé ce cap de 90 000, et nous avons comme objectif d'aller au plus vite passer le cap des 100 000. Nous ne vivons que de ces abonnements, nous n'avons pas de subventions, nous n'avons pas de publicité, et nous n'avons pas de, j'y reviendrai, de mécènes. Qui fait des avances en trésorerie, en compte courant, comme je sais pas, le Crédit Mutuel, M. Niel, M. Dassault, M. etc. Nous ne sommes pas endettés, nous avons fait notre troisième année bénéficiaire. Dernière année, on a fait 7 millions de chiffre d'affaires et un peu plus, pas tout à fait 1 million, un peu plus de 900 000 euros de résultat net. Là, cette année, nous ferons probablement, à la date d'aujourd'hui, mais l'année n'est pas terminée, si on projette, parce qu'on peut le faire, je pense qu'on ira vers au minimum les 8 millions de chiffre d'affaires et un peu plus d'un million de résultats nets. Nous avons 3 millions d'euros en trésorerie. Notre directrice générale me dit que tu n'as pas à dire ces chiffres, mais à chaque fois je les donne, parce que c'est la réalité. Voilà, j'ai pas de, je crois qu'on est, un
peu... Vous les donner à vos abonnés.
Oui, en plus, comment dire, on ne peut pas être dans un combat de journaliste pour dire il faut que vous disiez vos salaires, je vous donne mon salaire. Je donne, etc. Enfin bon, et vous dire votre rapport à l'argent quand vous avez une responsabilité, la transparence, etc. Et ne pas le faire sur vous-même. Notre objectif, c'est de construire l'indépendance de Mediapart. C'est le vrai enjeu pour moi. La mission pour moi, elle sera accomplie quand il y aura à la fois la structure juridique et donc le cadre financier d'une indépendance pérenne de Mediapart. Actuellement, l'indépendance, elle est garantie par quoi ? Par le fait que l'actionnaire majoritaire, c'est d'une part les fondateurs, dont moi et la directrice générale principalement. J'ai un emprunt que je dois rembourser, un emprunt personnel jusqu'à fin 2017, exactement. Les fondateurs, une société des amis, ont la majorité de Mediapart. Et nous avons des actionnaires minoritaires partenaires, essentiellement deux, trois à l'origine, mais deux maintenant, dont l'un qui est un fonds d'investissement qu'on doit racheter d'ici un an. Était prévu, ce sont des gens qu'on connaissait, qu'on connaissait dans une affaire qu'on avait traitée, qui ont fait avec l'argent de leurs clients, ont fait un investissement ponctuel de conviction, et donc c'est convenu, on les rachète dans un an. Donc cet argent que nous économisons, que nous mettons de côté, d'une part il est investi dans l'entreprise, hein, nous avons commencé à 27, nous sommes aujourd'hui 50 salariés, nous faisons travailler une vingtaine de pigistes. Voilà, l'essentiel est toujours mis du côté quand même du développement de la richesse de l'entreprise elle-même. Racheter une partie des actionnaires extérieurs et surtout créer, Libération a fait une page récemment dessus, après notre conférence de presse, inventer dans le cadre du droit français, qui est beaucoup plus complexe que le droit anglo-saxon là-dessus, que le droit hollandais, par exemple. Mais si Mediapart allait faire une fondation en Hollande, on dirait qu'ils veulent faire de l'exil fiscal, donc on ne va pas faire ça. C'est comment faire ce qu'on appelle du non-profit, c'est-à-dire créer ce que disait Hubert Beuve-Merry, le fondateur du Monde, une société de presse à but non lucratif, un cadre juridique qui permet d'abonder, nous les fondateurs, on ne veut pas vendre nos parts, on ne veut pas céder Mediapart à plus offrant, on veut rendre cette richesse à la collectivité. Tout en faisant que ceux qui nous sont aidés, soient récompensés. Hein. C'est pas du love money, des gens qui ont cassé leur plan épargne logement pour nous accompagner, il est normal de les récompenser. Et donc on voudrait créer ça, on réfléchit autour d'une forme juridique qui existe actuellement en France qui s'appelle le fonds de dotation. Vous pouvez aller voir sur Wikipédia, c'est bien expliqué. Ça a la souplesse juridique des associations, la souplesse financière des fondations. On essaye d'inventer ça pour toute la presse. J'ai toujours dit, ça a été le même chose sur la bataille fiscale pour l'égalité fiscale entre presse numérique et presse papier. Nous sommes un laboratoire, nous ne demandons aucun privilège et les combats que nous menons sont des combats pour toute la presse. Un des problèmes de toutes les rédactions qui fait que du coup elles se retrouvent avec des actionnaires qui ont d'autres intérêts, c'est la sous-capitalisation fondamentale de la presse française. Donc nous, nous voulons, avec la majorité actuelle, si elle nous entend, avec les autorités, le pouvoir public, s'ils nous entendent, faire avancer cette idée d'une structure qui permettrait, en clair, avec, comme je dis, non-profit, avec des incitations par la défiscalisation, à ce que des personnes se disent « il manque une presse indépendante, il manque une presse pluraliste, il manque une presse où ce soit des journaux ou des journalistes, je mets de l'argent, je n'en deviens pas pour autant actionnaire. Je mets de l'argent et j'ai un avantage fiscal en échange, et du coup... » Cela fonctionne. Je rappelle juste hein, que c'est, par rapport à toujours une culture, moi je ne suis pas de ceux qui... Je pense qu'on a le droit de s'enrichir, qu'on a le droit d'être un entrepreneur, et je pense qu'on peut tenir ce discours tout en tenant le discours social, tout en ayant toutes ces exigences-là. Je rappelle juste qu'il y a une statistique qui vous explique pourquoi les Warren Buffett et autres disent « mais moi je ne veux pas faire d'héritage, mes enfants je leur ai donné un peu d'argent de mon vivant, mais la statistique, j'oublie à chaque fois le chiffre exact ». Aux États-Unis, une fortune familiale revient en, je crois, 2 générations et demie ou 3 générations maximum au bien public. En France, c'est 4-5 générations. C'est-à-dire l'incitation à rendre. C'est-à-dire cette idée, dans mon précédent livre, je racontais ce que racontait Pulitzer. Hein. Voilà, on s'enrichit, mais si on s'enrichit, on s'enrichit par une réussite qui n'est jamais seulement personnelle, qui est celle de la collectivité, du pays, et on doit rendre. Doit trouver les moyens de rendre, d'aider, etc. D'où ces incitations. Donc voilà l'idée, et ma mission sera accomplie le jour où Mediapart aura passé ce cap de 100 000 et aura cette rentabilité pérenne, et aura ce cadre juridique qui permettra d'en imaginer la gouvernance, qui permettra d'avoir un cadre qui permettra à ce que les profits de Mediapart servent peut-être à d'autres aventures, puisque Mediapart n'est pas destiné à faire du gras. Donc s'il y a des profits, il faudra peut-être faire d'autres journaux dans d'autres projets que font d'autres. Hein. Je prends par exemple, je prends toujours cet exemple, il n'y a qu'un journal économique en France, il est la propriété de Bernard Arnault, la première fortune de notre pays. Les entrepreneurs, les gens qui sont dans la banque aimeraient peut-être avoir un journal moderne, totalement indépendant de tout intérêt et de référence. Donc voilà mon projet. Et voilà ma mission véritable, qui est une mission après l'échec du Monde et les échecs à Libération des sociétés de personnel, des sociétés de rédacteurs, du contrôle direct par les personnels. Tout ça, je vais y venir, nous faisons avec l'équipe de Mediapart. Mon but, mon vrai défi, et c'est paradoxal peut-être pour certains de me voir comme ça, est un défi entrepreneurial de ce point de vue. Montrer qu'on peut créer de la valeur avec le journaliste, qu'on peut créer une entreprise profitable, qui ne jette pas l'argent par les fenêtres, qui crée des emplois et qui du coup va continuer à s'installer comme un lieu d'indépendance utile à tout le monde, comme un point de référence utile à tout le monde. Comme je dis, Mediapart, c'est un journal hein, qui traite aussi bien l'international, qui traite aussi bien la culture, l'économie. Nous étions les premiers à avoir un envoyé spécial à Sébastopol au moment de la crise ukrainienne. Pourquoi ? Parce que François Bonnet, le directeur éditorial, a été correspondant du Monde à Moscou. Et avant d'autres, il a dit « c'est pas à Kiev qu'il faut aller, tout le monde est à Kiev, il faut aller en Crimée ». Il savait que la Russie allait bouger, donc hop, Amélie Poinceau, elle a été tout de suite, et on a été... Donc, voilà. Pour terminer, la notoriété est encombrante. J'ai beau dire à tous les journalistes qui viennent pour faire des portraits et tout, je dis, écoutez, moi, je suis le crieur de journal de Mediapart, qui est son emblème, hein, c'est écrit d'une gravure. Je fais les plateaux de télévision en citant 20 fois Mediapart. Je fais la réclame, je l'assume, je promeus ce journal. C'est pas moi qui le fais au jour le jour, c'est François Bonnet. Notre culture est très horizontale. Il y a évidemment des délégués du personnel, il y a évidemment une société des journalistes. Il y aura, on vient de passer le cap des 50, un comité d'entreprise. La critique, elle est là. La différence, c'est que je n'ai pas à traîner un gros paquebot qui a une histoire préexistante. Je dis souvent, le Monde, c'était comme les paquebots Costa. Vous voyez, c'est superbe. Parfois, ça tombe sur un Nicole. Là, Mediapart, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de grâce. C'est une vedette rapide que les douaniers ne voient pas toujours. Ça passe très vite. Hein, et c'est sans frontières, hein, ça file. Bon, donc voilà, je pense sincèrement connaître l'équipe de Mediapart, que évidemment qu'elle pourra se passer de moi. Vous le voyez déjà quand vous entendez Fabrice Arfi, quand vous voyez, et il y en a d'autres. Et moi, vous pourrez me le rappeler si ce n'est pas le cas, j'ai 61 ans hein, depuis l'année dernière. Je vous ai dit que j'ai un emprunt jusqu'à fin 2017, donc ça m'amène à mes 65 ans. Et voilà, je m'arrêterai là parce que je ne crois pas qu'on regarde l'histoire du Nouvel Observateur. Vous avez deux papis qui, dans leur alliance conflictuelle, ont finalement tué un journal sous eux, hein, en ne passant pas la main, en ne lui inventant pas un avenir, au point que, par dédain de ces journalistes qui vivaient à son crochet, puisque c'est lui qui faisait vivre. L'Observateur pouvait perdre de l'argent, il y avait les salis broyeurs de M. Perdriel. Il y avait un mécène, il y avait qui du coup fait qu'on ne s'intéressait pas trop à lui, alors que c'est une très grande puissance financière, économique. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Sur le tard, il se venge. Il ne demande pas à Jean-Daniel et il le vend. Et il le vend pour rien du tout. À nous, qui lâche dans une discussion aux îles Maldives avec Xavier Niel, opérateur de téléphonie et actionnaire richissime du Monde. Bon, je souhaite que Mediapart aide toute la profession à trouver d'autres voies que celle-là. Et voilà, j'ai la prétention de dire que nous sommes un petit laboratoire qui peut donner du courage à tout le monde, donner envie de se battre où qu'on soit, et inventer des solutions que d'autres peuvent retrouver. Cette histoire de société de presse à but non lucratif, je pense par exemple, pour dire les choses très clairement, que sur un des pluralismes qui pèse le plus sur notre vie publique, le pluralisme de la presse locale et régionale, eh bien ce sera un levier formidable pour que des jeunes et des moins jeunes journalistes se lancent dans des aventures en ayant de quoi tenir 3 ans. La clé de Mediapart, ça a été de trouver, quitte à s'endetter, quitte à prendre notre risque, assez d'argent pour payer les salaires de la même équipe pendant 3 ans. Parce que ça n'arrive jamais. Au début, il y a la notoriété. On a dirigé le Monde, formidable. Hop, on annonce un précis en décembre 2007. Hop, on lance en mars. On aura 10 000 abonnés sur notre notoriété. Tu pars, on en a eu 3 000. Et la question est peut-être qu'après, on lançait notre caillou et ça faisait des ronds dans l'eau pendant 2 mois, puis après, ça s'arrêtait. Pourquoi j'ai pas été inquiet? Parce que ça fait des ronds dans l'eau tous les jours, mais il n'y a pas. Il y a tous les jours des abonnés de Mediapart, le samedi, le dimanche, le 15 août, le 31 décembre. Et tous les jours, ils sont en plus grand nombre que les résiliations. Donc ça, la croissance, parfois il y a des moments de palier, hein, plus ou moins. Hein, mais voilà, et donc si ça peut aider tout le monde, donc voilà. Je pense que Mediapart vivra sans moi. Je pense que je pourrais retrouver la discrétion qui était celle de mon père, et j'ai une ruse pour ça, parce que un jour, peut-être, je me raserai la moustache.